Mais vous qu'il est pile, mais alors pile 20h sur Radio G. Et quand ça démarre, ça démarre. Salut à toutes et à tous et bienvenue Radio G Quasar on the Air, c'est l'émission de Quasar, le centre LGBTI+ d'Angers. On va parler de lesbiennes, de gays, de bi, de trans, voire de personnes intersexes. Nous avons un programme encore aujourd'hui pas mal chargé, mais surtout nous allons fêter cette émission, la sixième de la saison, pour l'an 1 de la dissolution de l'Alvarium à Angers par décision ministérielle et gouvernementale. Donc on peut s'en réjouir. Et on s'en réjouit très fortement, mais nous ne sommes pas naïfs. La volonté de nuisance des personnes concernées continuera sur Angers, bien évidemment. Nous y serons très 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 attentifs et attentives. On va se méfier également de Némésis qui grouille sur les rues et dans les rues angevines. Mais néanmoins, on est quand même content que cela puisse se faire, malgré effectivement toutes les possibilités financières qui sont les leurs. Mais on se félicite de cette dissolution à Angers de l'Alvarium. Comme à chaque fois, nous ouvrons cette émission de Quasar on the Air sur Radio G avec l'agenda de novembre-décembre pour le coup. Alors, notez bien, les permanences en ce mois de novembre sont les 20 et 27 novembre prochains, toujours à 17h et ce jusqu'à 19h. Et puis pour décembre, notez bien déjà 4, 11 et 18, mais pas le 25 parce qu'on aura tellement mangé la veille et tellement gavé de chocolat qu'on ne pourra pas être là. Mais on restera là et on rouvrira le 8 janvier. Sur l'agenda vendredi, demain soir, le 19 novembre, c'est la conviviale de Quasar. On papote, on rigole, rendez-vous 20h30 dans les locaux de Quasar, 15 rue de Jérusalem. Et puis samedi 20, nous avons nos invités et nous allons en parler à ce sujet. Une grande manifestation concernant le TIDOR, c'est-à-dire le journée du souvenir des personnes trans. On vous en reparle dans quelques instants. Et à cette occasion, notez qu'un spécial transat à 15h dans les locaux de Quasar est prévu avec à 16h30 un atelier pancarte. Mardi 23 novembre prochain à 19h, c'est la réunion du pôle droit des étrangers et des étrangères. Si cela vous intéresse et si vous voulez faire acte de candidature pour les aider, les suivre, eh bien, venez nous voir. Vendredi 26 et samedi 27 novembre, c'est la formation du Ravad à laquelle participe Quasar à Paris. Et puis notez tout de suite que mercredi 1er décembre à 18h, c'est la réunion du conseil, c'est-à-dire la réunion du conseil d'administration. Et sur vos tablettes, samedi 4 décembre, dès 13h30, grande journée de dépistage, TROD, VIH et VHC dans les locaux de Quasar avec aide et tous les partenaires. C'est bien noté ? On vous le redira à la fin de l'émission. Ce Quasar on the Air s'ouvre avec un programme très chargé sur la question trans, mais comme nous avons l'habitude, eh bien nous accueillons aussi des associations amies. Et aujourd'hui, dans les locaux de Quasar, eh bien, ce sont nos amis du collectif Luciole, en la personne de Menel et de Dimitri. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonsoir.
Alors, moi, ce que je vous propose pour commencer, c'est qu'on prenne un petit temps pour que vous puissiez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, quels sont vos objectifs. Et ainsi de suite. Donc, d'où vient le nom d'abord, Collectif Luciole? On voit bien l'idée, mais précisez-le quand même.
Alors, Collectif Luciole, c'est une idée de notre ancien président qui s'appelle Valentin. Et l'idée, en fait, c'était de personnifier un petit animal avec une lumière. Et grosso modo, en fait, on apporte la lumière à des personnes qui
était dans l'obscurité.
Ouais, exactement. Oui.
Très bien.
Peut-être c'est un peu pompeux, je sais pas. Mais
non, mais c'est l'idée.
C'est l'idée qui a été gardée.
C'était l'idée, bien sûr. Puis les Lucioles, ça a quelque chose de sympa.
Exactement.
Puis ça reste un petit côté enfantin aussi, quoi.
Oui.
Plaisant,
ouais.
Et en tout cas un bon souvenir, quoi. Voilà. Donc le nom vient de là. Vous existez depuis ?
On existe depuis 3 ans maintenant.
Depuis
le 24 novembre 2018, quelque chose comme ça.
La présidente hésite, mais c'est à peu près ça. Tu confirmes ?
Oui.
Bon, parfait.
Chose comme ça.
Alors, maintenant qu'on a parlé du nom, l'activité, d'abord, vous êtes dans quel secteur et quelles sont vos activités ?
On exerce sur le territoire universitaire d'Angers, donc on a pour vocation de s'étendre aussi à Cholet et également à Saumur, si jamais à Saumur on trouve des étudiants et étudiantes ou du personnel LGBTI+, aussi qui souhaiterait nous rejoindre. Et donc voilà, on est une association qui exerce sur l'université pour faire de la sensibilisation pour tout le monde, pour éduquer sur les questions de genre, de sexe, d'orientation sexuelle, d'identité de genre, etc., etc.
Donc vous vous adressez tant aux étudiants et étudiantes qu'au personnel universitaire, en fait.
Ouais, absolument, oui.
D'accord.
On accueille tout le monde dans l'association.
C'est bien votre visée.
Ouais.
Alors, dans les actions que vous menez concrètement, Menel, est-ce qu'il y a des choses que toi tu peux préciser ?
Tous les mois, par exemple, on participe à la Pride qui est organisée par Quasar, dans le but de se faire connaître par un public un peu plus jeune.
Et cette année, ça a été le cas ?
Oui, ça a bien fonctionné, je pense.
Ouais, à nouveau, oui.
Ouais. Et un de nos plus grands événements aussi, c'est la participation au Campus Day.
Oui.
Donc c'est un peu la journée de la fête de la fac.
Ouais, c'est organisé par la mairie, on est d'accord, hein ?
Par l'université.
Oui. L'université ?
Oui.
Je crois que ça n'a pas pris le relais de l'organisation mairie qui était tombée un peu à l'eau, non ?
Je
non, non, mais
pas,
peut-être pas.
Normalement, c'est vraiment un événement labellisé UA,
d'accord,
avec plein d'assauts de structures partenaires, et nous, ça nous ramène quand même pas mal de monde chaque année.
Ouais,
puis
on a
ça permet souvent aussi aux personnes qui arrivent en L1 de connaître un peu notre assaut, de se dire que c'est un peu... un peu plus sympa et un peu plus sécurisant pour ces gens-là.
D'accord.
De savoir qu'on est là.
Et aujourd'hui, vous touchez à peu près combien d'étudiants en nombre approximatif, je veux dire ?
Là, dans notre association, nous sommes 30 adhérents.
D'accord.
Pour l'instant.
Ok.
Et beaucoup nous font savoir en fait leur intérêt, mais n'osent pas s'engager parce que ne se rendent pas compte d'une quelconque ampleur de l'engagement associatif, de l'engagement militant qu'il faudrait offrir. Bon, en réalité, tout le monde est le bienvenu, bien sûr, s'il adhère à la charte du collectif, notre code de conduite. Et chacun s'engage en réalité sur le temps qu'il souhaite.
On se rappelle que vous aviez organisé en son temps une grande journée sur la question des archives, point effectivement très très important. Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter ? Pour la présentation ?
A priori, non.
Non, on a fait le tour. Alors, ce que je vous propose, un petit coup de musique, et puis on se retrouve après pour parler du programme de samedi, tous ensemble, on en profite. Et ça sera vraiment la grande journée trans. Allez, musique, avec Charline sur Radio G, Quasar on the Air, Mr. Hayes. balance toujours autant. Texas, nouvel album, nouveau titre, Mr. Hayes.
Radio G. 101.5 FM.
Dans ce Quasar on the Air de ce 18 novembre, nous avons nos invités, donc Ménel et Dimitri du collectif Luciole, et nous les avons invités parce qu'on va vous parler de l'événement de samedi prochain qui est une journée nationale. Alors, ce que toi, Ménel, tu peux nous dire de quelle journée il s'agit très exactement dans le calendrier des journées internationales?
Du coup, samedi, le 20 novembre, c'est le TIDOR, ou en français, la journée du souvenir trans.
Alors, en anglais, ça fait...
C'est Trans Day of Remembrance.
Voilà, c'est-à-dire la journée du souvenir.
C'est ça. Hein,
c'est ça.
Voilà. J'ai fait un peu un historique.
Ouais, ouais, vas-y.
Du coup, ça existe depuis 1999, et ça a été créé en hommage aux victimes de crimes de haine transphobes. On peut noter que le nombre de crimes de haine commis à l'encontre des personnes trans est toujours difficile à estimer, parce que finalement, le caractère transphobe n'est pas toujours retenu dans la loi.
Alors, on parle dans les poursuites et de la justice. Nous, par contre, on peut reconnaître le côté transphobe.
C'est ça.
D'accord.
Finalement, le grand nombre de victimes est connu principalement grâce aux associations qui font un grand travail. Avec en France notamment Accept ST.
Oui.
Pour le 20 novembre, on a malheureusement un grand nombre de victimes à commémorer, avec de nombreuses femmes trans travailleuses du sexe qui ont été assassinées, comme Vanessa Campos, oui. Ivana Macedo ou Jessica Sarmiento. Leur disparition, pour moi, témoigne de la haine dont peuvent être victimes les femmes trans racisées et travailleuses du sexe. Une haine à laquelle elles sont très vulnérables du fait de la stigmatisation de par leur travail et de leur situation, mais elles sont aussi très souvent isolées et très précaires. Donc on se recueille aussi samedi pour celles et ceux qui se sont suicidés ces dernières années, notamment cette année à cause de la transphobie qu'ils et elles ont vécue, avec des noms comme Tal, Mathilde, Douna, Fouad, Maxence, Nicolas et Sacha. Donc cette journée, elle est destinée à rendre hommage aux personnes qui ont été assassinées, poussées au suicide parce qu'elles étaient trans, sans bien souvent aucune intervention de l'État, car la transphobie tue toujours.
Alors, nous, sur le Maine-et-Loire, à notre connaissance, nous n'avons pas de cas connus. Hein, je pense que pour vous, c'est pareil.
C'est ça.
C'est ça, heureusement d'ailleurs. Mais vous, est-ce que dans le collectif Luciole, vous avez des personnes, des étudiants ou étudiantes trans qui viennent vous voir et vous confier leurs difficultés en tant que personne trans?
On a quelques personnes trans, la plupart très jeunes, qui viennent, oui, me voir, qui arrivent à la fac ou en fin de lycée et qui peuvent nous parler des fois de leurs difficultés, notamment avec leurs parents. Et qui trouvent en arrivant à la fac le collectif, et je pense que ça peut les aider. Après, on n'a pas de cas particulier de témoignages comme ça.
D'accord. Et donc, alors comment est-ce qu'on va s'organiser un peu à l'appel de cette manifestation samedi prochain? À quelle heure on se donne rendez-vous? Où?
18h, place du ralliement.
Oui.
On fait un appel à pancarte, mais aussi avec des bougies.
Oui.
Pour le côté symbolique de la flamme, pour se souvenir.
Tout à fait, avec prise de parole, je suppose.
C'est ça.
Voilà, de façon à dire pourquoi on est là et ce qu'on fait, finalement, pas trop tard en journée, mais vu la saison, nous serons en pleine nuit.
C'est ça.
Avec certainement un temps assez réfrigérant, mais n'empêche qu'on y sera, quoi. Et qu'on soit une petite poignée de vingtaine de personnes ou 200, peu importe, on y sera, et c'est ça qui est important, quoi.
Ouais, exactement.
En termes de visibilité, qu'est-ce qu'on fait après? On bouge? Allez, oui, on peut peut-être un peu bouger.
Peut-être, ouais.
Allez, on va essayer de faire un petit tour en ville, mais alors vraiment très symbolique, hein, pour aussi avoir de la visibilité et expliquer aux passants ce qu'on fera avec nos lumières et notre présence. Donc on fera un petit parcours vraiment beaucoup plus court que la marche annuelle de la dite Pride, on va prendre la place, la rue Le Nepveu, un peu la rue du Mail en redescendant, la rue des Poiliers, puis la rue Saint-Lô pour finir devant la fameuse place Mondain-Chalouineau, qui est en fait fleur d'eau pour que les gens s'y situent beaucoup mieux. Et puis on aura la possibilité comme ça de croiser les gens et d'expliquer. Alors évidemment, la marche, on est tous d'accord et toutes d'accord, n'est pas réservée qu'aux seules personnes trans, à genre et non-binaire. Hein, c'est ouvert aux personnes alliées.
C'est ça, ouais.
Hein, de façon à pouvoir exprimer. Qu'est-ce que vous notez dans les demandes des personnes concernées? Est-ce que vous avez, depuis les années d'existence du collectif, vu des demandes différentes, des approches spécifiques ou pas?
Nous, du point de vue étudiant, on témoigne toujours de la précarité étudiante.
Oui.
Avec en plus les précarités du fait d'être trans, d'être parfois rejeté par sa famille non sans aucune ressource.
Mm-hmm.
Ensuite.
L'idée du collectif, justement, c'est d'essayer d'apporter des solutions pour ça. Et je vais en profiter pour parler du prénom d'usage. Il y a des personnes trans qui viennent nous voir à la fac pour. Oui. Peut-être savoir comment ça marche en réalité cette procédure. Donc en fait, il est possible depuis maintenant 3 ans, il me semble, de s'inscrire sous le prénom que l'on souhaite et pas le prénom qui nous a été assigné à la naissance. Peu importe qu'on ait fait des changements à l'état civil de son prénom ou de son sexe. Les deux sont possibles, on peut changer son prénom et on peut changer son genre sur ses papiers étudiants. Et donc le mail, les listes d'appels, les listes de diffusion, toutes ces données-là, elles sont
modifiables.
Elles sont modifiables et elles sont modifiables au souhait de l'étudiant. Le seul endroit où ça coince encore, en réalité, malheureusement, c'est sur le diplôme.
C'est ça.
Pour des questions de fraude.
C'est-à-dire que pour toutes les demandes de changement de prénom, donc avec le prénom d'usage, que ce soit à la fac, l'université, donc, ou les établissements scolaires, c'est exactement la même règle. C'est-à-dire que le dossier d'inscription reste au prénom d'assignation de naissance, mais tout le reste peut effectivement être changé. Est-ce qu'il y a eu une avancée à la fac grâce à vous ou à la prise de conscience de la fac sur le genrage des courriers monsieur, madame? Est-ce qu'ils ont entendu que finalement c'était pas nécessaire quand il y avait un doute?
Il y a un travail qui a été fait, oui, sur ça, notamment en lien avec la commission égalité, où on avait bien notre ancien président, toujours Valentin, qui y siégeait. Et oui, il y a tout un travail de réflexion qui a été fait sur ça pour effacer en fait en réalité au maximum la demande de renseignement du sexe de la personne, puisqu'en réalité on s'en fout dans la grande majorité des cas. Bon, moi je constate qu'il en reste encore des petits couacs. Par exemple, je me suis inscrit à une conférence sur la présomption d'innocence. Bon, a priori, peu importe qu'on sache ma civilité, et pourtant on me demande si je suis un monsieur ou si je suis une madame.
D'accord.
Donc il me semble qu'il y a encore deux, trois travaux, à faire de ce côté-là.
D'accord. Et on rappelle que la civilité n'est pas du tout un élément constitutif de l'état civil, d'où la nécessité de rappeler que ce n'est pas obligatoire, c'est juste une convention. À partir du moment où on a coché la case F, eh bien on va vous appeler madame, et M, monsieur. Mais absolument. En réalité, ça ne sert pas à grand chose.
Peu importe, oui.
Et y a plein de services administratifs, ne serait-ce que la SNCF. On se demande pourquoi ils vous demandent monsieur, madame. On ne voit pas du tout à quoi ça peut servir. C'est pas pour autant qu'on va être mieux ou moins bien véhiculé ou voyagé. Enfin, vraiment, on tombe un petit peu à la renverse. Donc, dans les demandes des personnes, est-ce que les personnes trans qui viennent vous voir éventuellement, est-ce qu'elles ont des questions sur leur parcours ou elles sont déjà engagées dans un parcours hormonothérapie bien clair, bien précis, en sachant à quelle porte aller frapper et en disant je ne veux pas être psychiatrisée, donc en n'allant pas voir sur Angers, et ils sont pléthores, les médecins qui psychiatrisent.
Je veux pas dire de bêtises, il me semble que personne s'est adressé à nous pour nous poser des questions de ce genre.
Ouais, souvent, c'est des personnes qui sont déjà bien engagées dans leur transition, mais souvent, ces personnes, elles connaissent pas la situation d'Angers parce qu'elles viennent pas de là.
D'accord.
Donc, c'est des questions sur d'autres sujets, ouais.
Donc, on rappelle qu'on se donne rendez-vous samedi à 18h. Place du Ralliement. C'est la journée du souvenir des personnes trans avec le collectif Luciole, Quasar et toutes les autres associations qui voudront bien nous rejoindre. Merci d'être venu. Vous restez un petit peu pendant l'émission. Il y a plein d'autres invités. Vous pourrez d'ailleurs éventuellement leur poser des questions parce que nous allons encore parler de la question trans. Le nouveau Stromae.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Mieux vaut ne pas si frotter, frotter. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser. Tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Chauffeur de camion, hôtesse de l'air, boulanger ou marin pêcheur, un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les pleurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations. Qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
On a reconnu la pâte Stromae. Santé.
Yoshi. 105 FM.
Quasar Anzier poursuit son émission tranquillement en déroulant la thématique transidentitaire. Et sur ce point, nous accueillons un nouvel accueil. Donc, alors le correspondant va me reprendre, mais il est parti où, notre correspondant? C'est un problème.
Je suis là.
Il est là. Bonsoir, Elian.
Bonsoir.
Alors, Elian, on te présente. Tu fais partie de la fédération LGBTI+, fédération à laquelle Quasar appartient. Et tu t'es plus particulièrement chargé, avec d'autres personnes dont tu vas pouvoir nous parler, d'un projet qui maintenant éclot et voit le jour. C'est une brochure qui s'intitule « Vie sexuelle et transidentité, comprendre, accompagner, s'épanouir ». Alors, quelle est la genèse de cette brochure et pourquoi ?
Tout simplement, c'est une brochure qui est née d'une frustration qu'on avait en tant que militant de ne pas trouver des ressources appropriées quand on devait discuter ou bien avec des professionnels de santé ou des gens qui accompagnent des personnes transgenres dans leur parcours de vie et qui étaient en difficulté parfois sur les questions de santé sexuelle. Et donc, on avait besoin d'avoir un outil. Cet outil, on a fini par le faire, tout simplement. Oui. Parce qu'on ne trouvait pas ce qu'il nous fallait.
Selon l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, après, c'est mieux de mettre en collectif ce qu'on a pu faire par soi-même. Derrière.
D'accord. Alors, c'est destiné très exactement à qui, pourquoi, comment ?
Alors, en premier lieu, c'est destiné à l'ensemble des personnes qui accompagnent les personnes transgenres sur des questions de santé sexuelle, donc les professionnels de santé, quelle que soit leur spécialité. Les gens qui prennent en charge les accompagnements dans le milieu associatif et éventuellement ensuite aussi les personnes transgenres elles-mêmes que ça peut clairement aider à aller vers le soin.
Oui, et puis surtout découvrir des réalités peut-être dont elles n'avaient pas connaissance. Ça peut aussi être...
En tout cas, s'aiguiller sur leurs droits et les possibilités dans le parcours, oui, tout à fait.
D'accord. Est-ce que tu peux nous définir, selon toi, ce qu'est la santé sexuelle ? Enfin, en tout cas, la définition que vous avez donnée pour cette brochure ?
Oui, alors nous, on l'entend au sens de l'OMS. C'est pas forcément la présence d'une infection ou d'une maladie quelconque. C'est, et son traitement, c'est clairement la prise en charge de l'individu dans sa totalité pour viser son bien-être et son épanouissement jusque dans la vie affective.
D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, vous êtes arrêté sur plusieurs thématiques, des chapitres, et lesquels ?
Tout à fait. Ouais. Alors, on a travaillé sur un ensemble de chapitres plus ou moins classiques, avec des thématiques parfois plus traitées. Notamment, on a bien sûr dû revenir sur les bases de la transidentité, qu'est-ce que c'est théoriquement et comment ça s'explique pour les personnes les moins au courant de ces choses-là. Et puis aussi, tout simplement, aller vers des choses classiques de la santé sexuelle, comme la contraception, mais qui sont peu connues et peu évoquées dans le cas de la transidentité. Par exemple, ça pose des questions assez spécifiques. Quelles sont les interactions entre une hormonothérapie et une contraception ? Qui peut être hormonal, par exemple. Mmh. Voilà, c'est des choses plus ou moins classiques, mais avec des espaces et des thématiques qu'on avait, sur lesquels il y a très peu de données, où il a fallu faire beaucoup de recherches, parce que l'interaction entre les deux thèmes est parfois assez spécifique et peu explorée encore aujourd'hui.
Est-ce que si je te dis transidentité au pluriel, ça te parle ?
C'est à peu près la démarche qu'on a entrepris. On part du principe qu'il y a autant de transidentité qu'il y a de personnes transgenres et que on est face à des parcours multiples et que par rapport à ça, il faut juste avoir des connaissances théoriques et partir du principe que quand on accueille une personne dans un milieu associatif ou médical, on accueille une personne spécifique avec sa vie et ses choix personnels et que toutes les connaissances qu'on va pouvoir apporter par cette brochure, il va falloir les adapter aussi en face des personnes.
D'accord. Ce qu'on est en train de dire, c'est que souvent les personnes empruntent des morceaux de chemin identiques, mais c'est propre à chaque personne, c'est-à-dire que la durée, la prise de conscience, l'application, la volonté d'entrer dans tel ou tel programme, d'aller vers telle ou telle possibilité, comme la réassignation sexuelle qui, rappelons-le, n'est pas une obligation complète de fin de parcours et qui ne s'impose d'ailleurs à personne, sauf les personnes qui le souhaitent. Donc ça fait partie de cette définition, de ce champ large des possibilités quand on parle de transidentité. Ça, on comprend bien. Tu as défini tout à l'heure la santé sexuelle, c'est-à-dire la prise en charge de la personne dans sa globalité. Il y a un chapitre, je crois, qui s'appelle « Aller aux soins ». Qu'est-ce que vous entendiez exactement par là ? C'est-à-dire qu'il y a une spécificité du soin lorsqu'on est une personne trans vis-à-vis des personnes cis ?
Alors, il y a une spécificité dans les questions que ça peut poser et qui ne sont pas forcément évidentes pour les personnes soignantes qui n'y sont pas formées dans la partie formation théorique formation initiale. On voulait apporter des éléments de réflexion à la fois pour les personnels soignants, qui puissent comprendre à quel point et sur quel niveau il y a des questionnements et des doutes quand une personne transgenre peut être amenée à consulter. Et dans l'autre sens, on voulait aussi permettre aux personnes transgenres d'avoir des éléments de connaissance sur leurs droits, notamment, par exemple, s'il peut y avoir des soins parfois qui ne se passent pas très bien pour une raison X ou Y, liée à la transidentité ou pas. Et bien que la personne a le droit de quitter une consultation, que la personne a un libre choix de ses problèmes de santé, comme le droit de la santé lui permet. Et que tous ces éléments de connaissance permettent aussi à la personne de créer des stratégies pour aller vers le soin plus sereinement et en ayant des garde-fous si jamais ça se passe pas bien. Voilà, donc ça permet aussi de réconcilier d'une part et l'autre les personnes agissant dans le soin.
Alors, si on parle des soignants ou du personnel médical dans sa grande diversité, est-ce que vous constatez, puisque toi tu es basé à Rennes, donc auprès d'ISKIS, est-ce que vous avez constaté de la maltraitance, de la transphobie involontaire ou volontaire? Qu'est-ce qu'il en est de ce point de vue?
Alors, ce qui est certain, c'est que le système de santé à l'heure actuelle, dans sa globalité, n'est pas adapté à la prise en charge des personnes, que ce soit pour des questions de transition ou des questions de santé générale hors transidentité. De plus en plus, le sujet de transidentité devient un sujet grand public, entre guillemets, dans le sens où on en discute plus ouvertement en société. Au-delà de la qualité des conversations qu'on peut avoir sur ce sujet, ce n'est pas ça que je dis là, mais que du coup les soignants sont déjà au courant que ça existe maintenant et ont parfois un avis, parfois quelques connaissances. Les soignants formés sont cependant encore assez peu nombreux parce qu'il existe peu de structures qui peuvent former, peu de structures disponibles là-dessus, et elles sont souvent très prises. Donc, en fait, c'est tout simplement une dynamique qui est en cours, mais qui, effectivement, connaît un vrai bond ces dernières années, notamment à Rennes, le centre LGBTI est de plus en plus sollicité par des structures médicales ou médico-sociales pour être formé à l'accompagnement et à l'accueil des personnes transgenres.
Oui, effectivement, c'est ce que nous avions constaté dans une réunion des associations de l'Ouest, Nantes pareil, Angers pareil, et d'ailleurs on pourrait le dire sur toute la France, hein, ça a été à l'issue du premier confinement, ça a été une explosion des demandes croissantes, bien plus qu'avant, hein, c'était le constat qui a été posé. Et vous aviez, toi, tu avais une lecture du pourquoi, du comment, de ce moment-là, d'après le confinement?
En tout cas, sur la première partie de l'épidémie de Covid, le premier confinement a sûrement été aussi une occasion pour les gens de créer un espace-temps à côté du rythme de vie classique, hors du temps classique, et qui les a probablement mis en face d'eux-mêmes ou mis en face de certaines réflexions qui ne pouvaient pas éclore dans le train-train quotidien auparavant, oui, probablement de quelque chose de cet ordre-là.
Et la bousculade du quotidien où on ne prend pas le temps de se poser, de réfléchir sur soi-même. Et paradoxalement, ça a laissé beaucoup plus de temps pour chercher de l'information et trouver finalement des reportages, les voir, avoir une compréhension sur soi. En tout cas, c'est ce qui nous est revenu de façon régulière pour certains cas. D'accord. Alors, concernant les professionnels de santé, puisque cette brochure va leur être destinée, est-ce que, par exemple, vous aussi, vous vous êtes retrouvé avec des témoignages de personnes trans qui vous disent, pour l'ALD, par exemple, puisque souvent c'est le médecin traitant qui doit déclencher l'ALD auprès de la CPM du département où la personne vit, eh bien, moi j'ai eu un refus, tout simplement. Est-ce que c'est fréquent et si fréquent que cela?
Alors, cela arrive. Cela arrive de manière assez peu uniforme en fonction des départements, puisque les CPAM appliquent des décisions sur ces sujets-là qui sont pas forcément très lissées au niveau national.
Tu veux dire que ça peut être disparate, c'est ça ?
C'est disparate, c'est disparate selon les départements et aussi selon la temporalité. Parce qu'il y a des périodes où ça se passe très bien et des périodes d'espèce de crispation sur ces sujets-là, qui peuvent être liées éventuellement avec des resserrages de vis de certains médecins conseils qui permettent, enfin qui font ce genre de décision au niveau de départemental à la CPAM ou d'autres choses. Parfois c'est un peu inexpliqué comme ça. Enfin, on n'arrive pas, en tout cas, à le lier à des choses spécifiques. Mais ça arrive effectivement. Et c'est aussi pour cela qu'il est assez intéressant pour les praticiens qui suivent des personnes transgenres. Ou qui commencent à se former là-dessus, de fonctionner en réseau. Ça peut aussi les éclairer dans ce genre de difficultés.
Et par rapport à d'autres praticiens, comme les endocrinologues, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire par rapport aux personnes qui ne veulent pas être psychiatrisées et qui ne trouvent que des endocrinos qui réclament l'attestation signée d'un psychiatre ?
Alors ça dépend vraiment des territoires. Il y a des territoires où il est plus ou moins facile d'avoir accès à des soins de transition, parce que là c'est de ça dont on parle, avec des possibilités plus ou moins psychiatrisantes. Il faut le dire, j'en ai pas forcément rencontré beaucoup, mais il y a des personnes que les parcours officiels entre guillemets de France, enfin de
oui, alors.
De l'ancienne
Sofect,
l'ancienne Sofect qui a beaucoup changé de nom depuis.
C'est quand même un record. Oui. Hein. Ils ont changé deux fois de nom pour vraiment essayer de noyer le poisson, mais ça ne fonctionne pas mieux finalement.
Oui, deux changements de nom en 3 ans, c'est quand même pas mal. Ces parcours-là peuvent apparemment convenir à certaines personnes, puisque il y a des gens qui font ces parcours. De là à savoir s'ils les vivent bien ou pas, je ne sais pas. Je n'ai pas beaucoup d'éléments là-dessus. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui rejettent ces parcours psychiatrisants, dirigés par des psychiatres dans des milieux hospitaliers, dans le cadre d'équipes pluridisciplinaires, effectivement. Et par contre, les offres alternatives de santé et de prise en charge des transitions sont assez inégales selon les territoires. Donc, il y a des territoires comme sur la région de Rennes où c'est un travail actif depuis de nombreuses années, où effectivement il y a quelque chose déjà d'un peu structuré malgré une demande plus forte que l'offre, c'est vrai, mais il y a des territoires qui sont très peu pourvus où les gens sont beaucoup plus contraints à des compromis entre leur bien-être et leur manière de leur limite de ce qu'ils sont prêts ou ce qu'elles sont prêtes à accepter et l'espoir d'une prise en charge.
Alors, donc ça, effectivement, c'est ça qui est compliqué. Peut-être faudrait-il qu'on revienne sur un point qui, quand nous parlons de psychiatrisation, nous comprenons bien ce que nous voulons dire, mais par exemple pour les auditeurs qui sont cisgenres, qui entendent pour la première fois parler de cette question transidentitaire et des transidentités, qu'est-ce que nous dénonçons par la psychiatrisation des personnes trans ? Est-ce que tu peux l'expliquer en quelques mots ?
Tout simplement, c'est la classification persistante de la transidentité comme une maladie mentale, décrite comme une dysphorie de genre, c'est-à-dire une maladie avec des symptômes qui sont diagnosticables et qui serait le fait de ne pas se sentir en adéquation avec son corps et son corps et son sexe assigné à la naissance.
C'est ça. Et la dysphorie est souvent synonyme, traduction un peu rapide, de souffrance psychique. Quoi.
Oui. Hein, voilà. C'est souvent perçu comme ça dans le milieu psychiatrique. Oui.
Et il faut rappeler que la Sofect, même avec le nom changé, imposait un parcours de rendez-vous psychiatrique avec parfois une durée très très longue qui détruisait les personnes, quoi, véritablement.
les enjeux étaient souvent sous l'ordre de la maltraitance, de forcer les choix des personnes, parce qu'il fallait correspondre à un certain nombre de critères très stricts, notamment la stricte hétérosexualité, le fait de correspondre à des critères de genre très traditionnels, typiques de la femme féminine qui doit aimer être à la maison, faire la cuisine, enfin, quelque chose de très peu orthodoxe.
D'accord. Sur les autres chapitres que la brochure aborde, il y a la question des couples et des relations. Donc là, oui. Ce dont vous parlez, c'est de l'intime, c'est de la gestion du quotidien avec des couples, soit de personnes trans elles-mêmes ou une personne trans avec une personne cis. C'est tous ces cas de figure-là que vous avez essayé d'approcher et de pouvoir théoriser quelque chose ou d'expliquer.
Alors c'est tout simplement de mettre le doigt sur certains effets spécifiques qui peuvent avoir lieu dans les cadres des relations proches, amoureuses, sexuelles, puisqu'il y a une plus grande fragilité face à certains types de violences, notamment des violences un peu sur lesquelles il peut être un peu difficile de mettre le mot, et qui sont même encore assez peu aujourd'hui à discuter dans le milieu des personnes transgenres, puisque parfois il y a une très grande peur de la solitude, du rejet, et de la capacité ou de l'incapacité supposée à trouver des partenaires. Effectivement, c'est une sorte de précarité sur lequel il n'y a pas encore vraiment de réflexion militante, mais qui sort une sorte de précarité relationnelle. Puisque l'existence même de la personne transgenre peut éventuellement remettre en question beaucoup de choses chez une personne dans une relation de drague ou dans une relation amoureuse. Et on voit notamment beaucoup de personnes se séparer après un coming out transgenre, beaucoup de difficultés chez certains et certaines à trouver des partenaires amoureux, puisque il y a une véritable figure dans la pop culture de la personne transgenre comme étant un peu un espèce de monstre. Donc ça aide pas du tout dans la vie amoureuse.
D'accord. Et sur le chapitre fertilité, c'est toute la question, alors comme un film récent sorti avec une actrice parfaitement cisgenre pour jouer le rôle d'un homme trans qui porte un enfant, enfin, en tout cas dans l'histoire, qui aborde la transparentalité. C'est un point encore compliqué puisque la PMA n'a pas été ouverte aux couples ou aux personnes trans.
Tout à fait. Il y a encore un véritable tabou là-dessus. C'est assez récent, rien que le fait de ne plus demander aux personnes transgenres de prouver qu'elles ont été opérées au niveau génital et donc qu'elles sont plus en capacité de procréer pour leur accorder le changement d'état civil. C'était encore le cas jusqu'à 2017, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Et l'idée que les personnes transgenres puissent devenir parents, notamment après avoir initié une transition, ça reste relativement tabou. Il nous semblait important de remettre quelques éléments de connaissance là-dessus. D'après les éléments les plus récents de la connaissance scientifique, en tout cas, puisque il y a beaucoup de conceptions erronées là-dessus.
Alors la brochure, pour terminer, elle sort quand? Elle est financée par un organisme particulier? Dis-nous tout.
Oui, elle est financée par la direction interministérielle de la lutte contre les discriminations.
Autrement dit, la DILCRA.
Elle est déjà sortie. La DILCRA, oui.
Voilà, elle est sortie.
Pour les familiers. Elle est déjà sortie.
Et on l'atteint où?
Eh bien, on peut la trouver et trouver des illustrations, des extraits et plus d'informations sur le site de la Fédération LGBTI. Et c'est là-dessus aussi qu'on peut la commander.
Alors, donc, c'est fédérationlgbti.org. Voilà. Merci Elian pour toutes ces précisions. Longue et belle vie à cette brochure et merci pour le boulot. Très bonne soirée à
oui,
toi.
Bon militantisme.
Merci, au revoir. La soirée se poursuit en douceur, baissez les lumières. Voici Adèle, nouveau titre sur Radio G, Quasar on the Air.
There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when
Phénomène, le nouveau Adèle sur Radio G, Easy on Me.
Radio G, 101.5 FM.
Quasar on the Air, eh bien ça tourne, 20h49 déjà, nous accueillons nouvel invité sur Radio G dans ce Quasar on the Air, c'est Antonin qui nous appelle et grand mystère et grande logique, depuis Rennes aussi, bonsoir Antonin.
Salut Stéphane, et oui de Rennes aussi.
Alors, Antonin, on t'a invité au téléphone parce que c'était compliqué de se voir de Rennes à Angers. Néanmoins, on fait en direct avec le téléphone de façon à pouvoir parler d'une autre brochure que la Fédération, décidément LGBTI+, a déjà sortie, mais dont on va parler ce soir. C'est une brochure qui informe et communique sur les violences au sein des couples de femmes ou des couple bisexuel. Cette même question que pour Elian tout à l'heure, d'où est venue la nécessité de cette brochure et quelle est sa genèse finalement ?
Alors, c'est même déjà même plus qu'une brochure, donc c'est une campagne même avec une affiche qu'on peut mettre voilà, dans les locaux d'association, un petit peu partout. un des clients, donc qui est vraiment distribué à n'importe qui, et une petite carte de visite qu'on peut glisser discrètement dans sa poche. Donc en fait, l'envie de cette campagne, il est parti d'un constat, on va dire, de terrain, que vous connaissez, j'imagine aussi à Quasar, c'est qu'on s'est rendu compte dans les centres LGBTI+, qu'on recevait quand même assez souvent des femmes lesbiennes, bisexuelles, qui ne faisaient pas en fait de violences conjugales et qui n'avaient pas forcément vraiment conscience que c'était des violences conjugales, en tout cas qui ne posaient pas le mot, et que c'était finalement un sujet dont on ne parlait jamais, alors qu'on parle dans nos assos assez souvent de consentement, on parle voilà, de la violence des autres, mais on ne parle pas de la violence au sein des couples. Mmh. Donc on s'est dit, bah voilà, et bah il faut qu'on remédie à ça, parce que bah quand on est une femme lesbienne, bisexuelle, une femme transgenre, les campagnes auxquelles on a accès, en général, moi l'idée que j'en ai souvent, le cliché un peu, c'est la photo d'une femme blanche, jeune, maigre, qui n'a pas l'air très pauvre et qui a un œil au beurre noir, voilà, qui a l'air très malheureuse. Et ça, en fait, déjà, je ne suis pas sûre que ça parle exactement à toutes les femmes hétérosexuelles cisgenres, mais ce qui est clair, c'est que ça ne parle pas du tout aux femmes lesbiennes, aux femmes bisexuelles, en tout cas au public qu'on peut avoir, nous, dans nos centres LGBT+.
D'accord.
Donc voilà, d'où l'envie en fait d'une campagne qui parle déjà au public et que le sujet, on puisse en parler dans les assos. Quoi.
Et alors, comment on fait pour s'adresser à ces couples de femmes lesbiennes ou bisexuelles?
Comment on s'adresse? On s'adresse quelque part de la même façon qu'à n'importe qui. Là, tout simplement, les textes qu'on a choisis sont des textes qui sont pas normés. On ne parle pas de votre mari vous frappe, des choses comme ça, tout bêtement. On parle de ta compagne, ton ami, etc. Et la campagne, de toute façon, elle ne s'adresse pas qu'aux femmes qui pourraient être victimes de ces violences. Elle s'adresse vraiment à tout le monde, parce que c'est un sujet qui concerne absolument tout le monde. C'est-à-dire qu'elle s'adresse aussi aux femmes qui pourraient commettre des violences ou avoir commis des violences. Parce que voilà, dans les violences, il n'y a pas que les victimes. Hein. Il y a bien deux côtés. Il y a d'abord des gens qui en sont auteurs, autrices de ces violences. Et c'est important voilà, qu'on puisse en parler aussi, simplement, avec ces gens-là. Et puis de tous les autres, c'est-à-dire quand on n'est pas du coup une femme lesbienne, bisexuelle, transgenre.
Et puis il y a les personnes alliées aussi.
On a des copines, voilà, c'est ça. On a des copines, on a des sœurs, on a des mères. On a des collègues, on a des voisins, donc ça s'adresse à tout le monde. C'est aussi avoir en tête que on a cette image d'épinal en fait de la violence conjugale qui est forcément une femme qui est battue par son mari. C'est beaucoup plus que ça. Déjà, ça peut être dans tous les couples, et puis couple, faut le prendre au sens large. C'est pas forcément le couple marié. Hein. Ça peut être un flirt, ça peut être un peu au cul régulé. En fait, toutes les relations psycho-affectives, on va dire romantiques, sentimentales, il peut y avoir de la violence qu'on peut appeler violence conjugale. Donc ça concerne vraiment tout le monde. Et puis, c'est pas que les violences physiques, c'est aussi ça qu'on voulait mettre dans la campagne. Je sais pas, peut-être qu'à Quasar, vous avez eu ça des fois dans les témoignages des personnes. On a beaucoup de gens qui imaginent que la violence conjugale c'est forcément des coups. Déjà la violence physique ça peut être beaucoup plus que ça. Ça peut être pincé, ça peut être brûlé, ça peut être contrainte par la force, immobiliser quelqu'un, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des violences psychologiques,
voilà, harcèlement,
dénigrer la personne, lui dire qu'elle est nulle, l'isoler socialement, avoir une emprise en fait vraiment sur toute sa vie, contrôler tout ce qu'elle fait, ça peut être des violences sexuelles, forcer des relations sexuelles ou sous des modalités en tout cas qui sont pas consenties, ça peut être même des violences administratives, comme par exemple garder les passeports, tous les papiers, toute la carte d'identité, tous les papiers administratifs, remplir tous les formulaires administratifs à la place de sa compagne. C'est aussi une manière de contrôler sa vie en fait. Enfin, voilà, c'est tous les moyens larges en fait de contrôler quelqu'un, diminuer son autonomie, donc soit physique, soit psychologique, soit là, tous les autres aspects. Et ça, nous on trouvait qu'on n'en parlait pas beaucoup. Donc,
Et quand on a,
dans les campagnes mutuelles.
Quand on a des cas comme ça, donc en parler et tout, est-ce qu'on peut, en tant qu'association, si on a fait déjà cette rencontre, ce travail-là, est-ce qu'il y a une réorientation possible vers d'autres structures, vers d'autres services? Qu'est-ce que toi, tu conseilles?
Alors, c'est vrai que ça, c'est la question un peu épineuse. Dans tous les cas, il y a la même orientation que pour n'importe quelle victime de violence, je veux dire en général. C'est-à-dire que les violences, elles ne sont pas légales, déjà. Donc, si la personne le souhaite, il y a la possibilité de déposer main courante, de porter plainte. Et donc, ben, voilà, en tant qu'asso, c'est aussi accompagner la personne dans cette démarche-là, mmh. si elle souhaite y aller. Il y a aussi des, selon où on habite, il y a aussi des structures qui permettent de mettre à l'abri les personnes victimes de violences conjugales, donc notamment de l'hébergement, des foyers d'hébergement, des choses comme ça. Donc ça, c'est aussi des possibilités, en sachant évidemment que malheureusement, encore faut-il qu'en face, les structures qu'on va solliciter, ou en tout cas vers qui on oriente, ben, soient au courant qu'effectivement, on peut recevoir une femme qui a été victime de violence de la part d'une autre femme.
Effectivement.
Voilà.
Et faire tomber.
C'est pas toujours, en fait, faut gagner, c'est ça.
Et à l'inverse, faire tomber les tabous aussi pour la prise en charge. C'est ça le plus dur. Cette brochure, cette campagne, cette affiche, on les trouve où pour terminer?
Alors, pour le moment, elles sont dans les centres LGBTI+, qui sont membres de la fédération LGBTI+, mmh. et on est en train de les diffuser plus largement. Donc, les centres ont déjà normalement aussi fait le boulot, l'ont distribué un petit peu dans leur réseau local. Donc voilà, ça va se diffuser là, au fur et à mesure un peu partout en France. Et on est en train de mettre les contenus en ligne pour que de toute façon tout le monde puisse accéder à l'information.
Et en ligne, donc, c'est sur.
Sur le site de la fédération LGBTI+. Alors c'est pas encore, mais sous quelques jours ce sera là.
Et ce sera fédérationlgbtiplus.org.
C'est ça.
Merci Antonin, très belle soirée.
À toi aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Radio G. 101.5 FM.
Allez, avant de refermer la page de ce Quasar en d'hier, le rappel de l'agenda des jours à venir. Je vous l'aurais dit, les permanences chaque samedi 17h, 19h pour le 20 et le 27 novembre. Pour le mois de décembre, vous notez déjà toujours le 4, le 11, le 18, mais pas le 25. Demain, vendredi, c'est la conviviale de Quasar, 20h30, rendez-vous 15 rue de Jérusalem entre l'avenue Pasteur et le boulevard des Deux Croix. Et samedi 20, nous en avons parlé avec nos invités, avec Ménel et Dimitri. Et c'est une journée spéciale Tidor, c'est-à-dire la journée du souvenir des personnes trans assassinées ou qui se sont suicidées. Alors, programme spécial pour Quasar, 15h, un transat spécial, avec à 16h30 l'atelier pancarte et à 18h, rendez-vous pour la manif Place du Ralliement avec un parcours dans les rues d'Angers. Mardi 23 à 19h, c'est la réunion du pôle droit des étrangers. Le samedi 26 et samedi 27 novembre, Quasar participera à la journée, aux journées de formation du RAVAD, le réseau d'assistance des victimes d'agression et de discrimination. Et puis notez sur vos tablettes enfin, le mercredi 1er décembre à 18h, c'est la réunion du conseil, autrement dit la réunion du conseil d'administration de Quasar. Et puis le samedi 4, sur vos tablettes, absolument vous notez, 13h30, 15 rue de Jérusalem, dans les locaux de Quasar, un dépistage avec aide sur tout ce qui concerne les TROD, le VIH, le VHC, et puis toutes les questions de santé sexuelle en général. Ce fut un plaisir, Ménel et Dimitri, de vous avoir avec nous. On vous souhaite une bonne soirée. Ciao, rentrez bien, soyez sages. Vraiment, profitez. On se dit à samedi, nous, pour aller marcher et nous souvenir. Et puis, toutes les activités qui vont se dérouler. Nous disons très exactement, eh bien, dans 15 jours pour un nouveau numéro de Quasar on the Air. On vous embrasse et on est toujours présent sur quasar.fr en quelques cas de difficulté que ce soit. Très belle soirée.
Radio G 101.5 FM. Yes.